De plus en plus souvent, il se disait que José avait peut-être vu juste lorsqu'il dénonçait la ligne du parti, qu'il avait pour sa part soutenue avec une intransigeance sans faille. Quant aux idées libertaires auxquelles il goûtait comme un fruit défendu, elles instillaient en lui le lent poison du doute, et ce doute ne cessait de s'étendre. Mais à quoi s'accrocher, se disait-il, lorsque tout vacille? À qui se fier? À quel modèle? À quel système? Et comment continuer de se battre? Le rôle de responsable du village qu'il avait occupé avec tant de fierté, à présent lui pesait. Et c'est à reculons qu'il se rendait à la mairie, les affaires politiques lui inspirant désormais une forme de dégoût. Il envisagea même d'abandonner ses fonctions et se mit à souhaiter la fin de la guerre, qu'elle fût perdue ou gagnée, qui le délivrerait de ses charges. Il vieillit d'un seul coup. Il avait 20 ans, il en parut 30. C'est à cette époque-là que les premières craintes paranoïaques s'insinuèrent en son âme inquiète. Se sentant, sinon franchement accusé, du moins blâmé par sa propre famille, il se prit à imaginer que son père le méprisait et que Monse le considérait avec aversion. Et l'idée le traversa, pour mieux s'innocenter, de se faire sauter la cervelle. Lui qui avait toujours été si défiant à l'égard de tout et de tous, lui dont on peut dire que la défiance avait été l'un des traits les plus saillants de son caractère, il en vint à se figurer que tout le village était contre lui, au point qu'il se crut l'objet d'une machination. Il commença de croire qu'on le regardait d'un sale œil, que quelque chose se tramait dans son dos et qu'on cherchait par mille moyens à lui nuire. De ce jour, il fut dans une tension extrême, s'enfermant dans son bureau à triple tour, sursautant au moindre bruit, et portant à la moindre alerte sa main au pistolet qu'il avait en permanence accroché au ceinturon. Pendant quelques années, il composa plus ou moins bien avec ses menaces conspiratrices auxquelles la guerre donnait une justification. Ce n'est que bien plus tard, après avoir émigré en France, qu'il serait pris d'un véritable délire de persécution qui le conduirait par deux fois à l'hôpital psychiatrique. Don Jaime, lui aussi, changeait. Le comportement des nationaux dans les villes conquises l'avait écœuré. Sa famille lui pesait, son fils l'inquiétait, et la tristesse de Monse lui était insupportable. Il ne se plaisait plus qu'en compagnie des paysans du coin, lesquels n'étaient pas sans calcul à son endroit et espéraient profiter un jour de ses largesses. Lui, en revanche, négligeait ses terres dont il laissait désormais l'entière charge à un jeune homme qui répondait au nom de Fermine. Et passait presque tous ses après-midi au café de Bendición à jouer des parties de domino avec d'autres hommes de son âge, ce qui explique peut-être l'embonpoint qui lui vint brusquement sur le ventre. Dans les mois qui suivirent, tout le potentiel de violence du village qui s'était manifesté jusque-là par des imputations calomnieuses, somme toute banales, et quelques polémiques énervées, se réactiva brusquement avec une force terrible et qui n'était pas dû qu'à la nouvelle lune. Chacun fut sur ses gardes. Chacun regarda l'autre comme un ennemi en puissance. On ne se risqua dans la rue qu'après avoir scruté les entours, dans la crainte qu'un tireur dissimulé ne se livrât à une fusillade. Il n'était pas exclu que des actes désespérés fussent commis, ou des embuscades tendues par quelques fanatiques. On redouta surtout qu'un guet-apens aussi tragique que le précédent ne se renouvelât. Tout le monde eut peur de tout le monde. L'acrimonie et la méfiance furent dans tous les cœurs, et chez certains, la haine. La fin de cette année 37 fut, dit ma mère, l'une des plus noires, l'une des plus tristes dont elle se souvenait. La tristesse de Monse coïncida avec le pressentiment partagé que la guerre, du côté républicain, s'acheminait vers la défaite. Dès son retour en France, Bernanos travailla avec acharnement à la rédaction finale des Grands Cimetières sous la Lune. Installé à Toulon, le vieux lion aux yeux clairs se rendit tous les jours en moto au café de la Rade, au risque de passer pour un ivrogne.